France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
En France, sur la première marche du podium, trône Jean Zé IV, le plus puissant supercalculateur de l'Hexagone. La machine a achevé sa métamorphose cette année, mais pourquoi cette course effrénée à la super informatique ? Inauguré en 2019, en pleine pandémie, le jeune supercalculateur avait été immédiatement mobilisé pour étudier le virus. Depuis, il s'est doté d'une nouvelle puissance de calcul qui atteint désormais les 126 pétaflops, soit 126 millions de milliards d'opérations chaque seconde. Il occupe une salle aussi grande qu'un terrain de foot avec des kilomètres de câblage, car les projets affluent. Climatologie, cosmologie, biologie computationnelle. Dans notre ère de la big data, les supercalculateurs jouent un rôle crucial. C'est ce qui alimente cette quête du gigantisme et cette débauche de pétaflop et bientôt d'exaflop. Supercalculateur, droit au bit. Pierre-François Lavallée, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur de recherche au CNRS, directeur de l'Institut du développement et des ressources en informatique scientifique, l'IDRIS. François Lanus, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur CNRS en astrophysique et cosmologie au département d'astrophysique du CEA Paris-Saclay. Jean-Philippe Picmal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à la Sorbonne Université, directeur scientifique de la start-up Qubit Pharmaceuticals. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation ici, merci, en direct dans nos studios sur France Culture. Et puis merci à vous qui êtes là au rendez-vous en direct ou à toute heure en podcast. Vous pouvez également suivre cette émission en nous suivant sur Blue Sky. Tous les jours, on poste pour vous de nombreuses, des archives, des liens, des infographies. C'est à retrouver sur notre compte @sciencecqfd. Alors comment s'expliquent les performances des machines actuelles? Quelles sont celles à venir et pour quels usages? Nous sommes ensemble une heure pour éclairer ces questions. Mais d'abord, Pierre-François Lavallée, quelle différence au juste avec un ordinateur classique, tout court? On parle de supercalculateur, de superordinateur classique, mais structurellement, c'est quoi la différence?
Alors en fait, il n'y a pas énormément de différence. La brique de base, c'est la même brique qu'un portable que je peux avoir aujourd'hui avec moi. On va retrouver un nœud de calcul. Un nœud de calcul, c'est quoi? C'est de la mémoire, c'est un CPU, c'est plus ou moins de GPU, et puis c'est un réseau d'interconnexion.
Alors CPU, ça, GPU, on peut tout de suite dire. Alors, CPU, c'est les microprocesseurs, voilà, GPU, les cartes graphiques.
Les cartes graphiques, exactement. Et donc, la différence fondamentale entre un portable et un nœud qui va être utilisé dans un supercalculateur, c'est le fait que tout le matériel qui va être utilisé dans le supercalculateur va être certifié, validé par le constructeur comme étant fonctionnel à 100% en pleine charge, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est la vraie différence. Ensuite, cette brique de base, on va la répliquer. On va la répliquer des dizaines, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de fois, et on va interconnecter chaque nœud de calcul avec chaque autre nœud de calcul avec un réseau d'interconnexion très haut débit. Et donc, c'est ce réseau d'interconnexion très haut débit qui va faire la vraie plus-value d'un supercalculateur et faire en sorte que sa puissance va atteindre, pour le supercalculateur Jean Zé, 126 pétaflops.
On reviendra également sur ces unités de mesure, mais François Lanus, pour compléter ce portrait, ou du moins ces différences entre ordinateur classique et ordinateur super-ordinateur.
Pour nous, la différence principale, c'est la taille des expériences qu'on peut faire tourner sur ces machines. Nos ordinateurs classiques, on peut faire tourner des petits codes, mais l'IA actuelle, en particulier sur les problèmes sur lesquels je travaille, vont de plus en plus vers travailler sur des énormes volumes de données et sur des énormes modèles de réseaux de neurones qui ont besoin d'énormément de mémoire pour pouvoir être entraînés et être appliqués. Et ça demande des ressources de calcul distribuées, comme on vient d'en parler, qui ne sont pas du tout... On ne peut pas imaginer construire ce type de modèle sur nos ordinateurs personnels.
Jean-Philippe Picmal, vous aussi, vous constatez cette puissance de calcul qui est due également aussi au fait que ça fonctionne 24 sur 24 et en parallélisme.
Voilà, ça c'est très important. Donc, moi je suis un théoricien du côté de la chimie. Donc mon travail c'est de résoudre des équations de la physique quantique. Et donc ces équations, elles résistent vraiment, on ne peut pas les résoudre à la main. Donc il faut enchaîner, multiplier la puissance de calcul, comme Pierre-François l'a expliqué, en interconnectant ensemble 1 million de fois, 1 milliard de fois la puissance de nos téléphones portables. Et ça permet de résoudre des équations en temps utile, parce que c'est ça qui est important. Il faut que ça se fasse vite.
Nos ordinateurs, on peut dire que c'est à la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'on peut parler d'ordinateur au sens contemporain du terme, mais pas encore de super ordinateur pour ça. Il faut attendre 1964 et le CDC 6600 conçu par Seymour Cray, considéré comme le père du supercomputing.
La France vient de recevoir un nouvel ordinateur Control Data 6600 de fabrication américaine, la plus grosse machine intellectuelle du monde. L'EDF a récemment acquis un appareil de ce type, mais celui-ci est installé à la SIA, la Société d'informatique appliquée, société privée spécialisée dans le traitement de l'information. Un tel appareil est 3 à 4 fois plus puissant que les calculateurs actuellement en service dans le monde. Il permettra de traiter plus complètement des problèmes plus complexes. On peut alimenter l'appareil en information sous forme de cartes perforées qu'il avale dans ce dispositif à raison de 1500 cartes à la minute. La SIA possédait déjà le frère aîné du 6600, le 3600, appareil de très grande puissance pourtant, mais qui ne suffit plus quand on veut traiter les problèmes très compliqués de gestion ou les calculs scientifiques. Le cerveau de l'ordinateur se compose d'éléments plus simples, des modules électroniques. C'est ici que se fait le calcul.
Alors, en 1967, l'ORTF présente le premier superordinateur. Alors, qu'est-ce qui a rendu possible ce gain de puissance, Pierre-François Lavallée ?
Alors, ce gain de puissance, faut bien voir que c'est quelque chose qui arrive régulièrement à chaque nouvelle génération. Mais on a, dans l'histoire des superordinateurs, plusieurs grandes étapes fondatrices. Donc le CDC 6600, c'était effectivement la première machine qui a été considérée comme étant un superordinateur. Quelques années après, Semucret a créé sa propre société, Cray Research, et a, dès la création de la société, a sorti un superordinateur qui s'appelait le Cray 1, qui était la première machine vectorielle au monde. Vectorielle au sens, jusqu'à présent, tous les ordinateurs traitaient des éléments, un nombre plus un autre nombre. Donc on traitait des éléments scalaires. Et l'idée de Semucret, c'est de dire, au lieu de traiter des éléments scalaires, on va traiter des vecteurs de 128 éléments. Donc avec une seule instruction, on pouvait additionner, multiplier plusieurs vecteurs et on sortait un résultat par cycle. Alors, cette technologie, ça a été vraiment une rupture technologique dans le domaine du supercomputing, et c'est une technologie qui a duré à peu près 20-25 ans et qui a été reprise en particulier par des constructeurs japonais. Donc ça a été le premier saut vraiment très important dans la technologie. Le deuxième saut, ça a été l'arrivée du parallélisme. Alors, plusieurs parallélismes. Parallélisme à l'intérieur des processeurs, pour des raisons d'efficacité énergétique, pour des raisons de fréquence qui arrivaient à des barrières, on a commencé à intégrer plusieurs cœurs d'exécution à l'intérieur des processeurs. Donc ça a été la deuxième révolution, le fait d'avoir des multicœurs. Troisième révolution, le passage au parallélisme massif. Donc on a déjà vu un superordinateur, c'est plusieurs nœuds de calcul qui sont interconnectés les uns aux autres. Au départ, les ordinateurs parallèles avaient une dizaine, une centaine de nœuds de calcul. On est monté jusqu'à des machines ayant plus d'1,5 million de cœurs de calcul, les Blue Jeans. Donc ça a été ce qu'on appelle le parallélisme massif. Et ensuite est arrivé le GPU. Les accélérateurs, les cartes graphiques issues du monde du gaming qu'on a utilisé dans le début des années 2000. On a commencé à les utiliser pour faire du calcul haute performance. Et puis, on s'est très vite aperçu en fait qu'ils avaient des atouts très, très intéressants en termes de capacité de calcul, en termes d'efficacité énergétique. Et on les a intégrés petit à petit au supercalculateur comme accélérateur. Alors, c'est compliqué à programmer. Je pense que voilà, les personnes qui sont là pourront en témoigner. Mais aujourd'hui, c'est le dispositif qui est le plus efficace en termes de performance par watt. Donc, voilà toutes les évolutions. Très rapidement, j'en ai sûrement oublié. Vous pourrez compléter.
Les trois grands jalons technologiques qui ont marqué cette histoire. Mais, et on peut donc remercier le gaming, l'histoire de ces processeurs graphiques qui on voit entre les années 2000-2010 et ces GPU qui ont réinjecté dans les supercalculateurs toutes les technologies qui ont fait leur histoire, et c'est ce qu'explique Jean-Philippe Picmal, le gigantisme qu'on constate aujourd'hui.
Clairement, donc les machines sont de plus en plus grandes. Plus grandes parce qu'il y a toujours plus d'utilisateurs. Donc ce qui est en train de se passer, c'est que on a évidemment la révolution de l'IA, mais on a aussi la révolution de la physique, puisqu'on commence à digitaliser en fait plein de parties de la science. Il y a, Il y a 20 ans, c'était surtout du supercomputing pour le nucléaire, par exemple. Et maintenant, la biologie et la chimie sont en train de devenir digitales. Donc, il y a plus d'utilisateurs, donc besoin de plus en plus de nœuds de calcul et besoin de machines les plus performantes et les plus récentes. Donc, on était jusqu'à maintenant ce qu'on appelle au calcul pétascale. Et là, depuis 3 ans, on est maintenant sur l'exascale. Donc, c'est 1000 fois la génération suivante. On voit ce qui se passe à chaque tour, à chaque évolution massive. Et à chaque fois, une nouvelle partie de la science commence à pouvoir être modélisée, en fait. C'est la modélisation, en fait, de tout l'espace scientifique qui est en train de se faire.
Alors justement, pétascale, pétaflop, peut-être qu'on peut éclairer, François Lanus, cette unité de mesure ensemble.
Alors, l'unité, je vais peut-être...
Pierre-François Lavalle.
Alors, j'ai quelques exemples. Hein. Alors, voilà, aujourd'hui, les machines, un supercalculateur comme Jean Zay, c'est 126 pétaflops. 126 pétaflops, c'est quoi? C'est 126 millions de milliards d'opérations flottantes par seconde. Donc A plus B, ça fait une opération flottante. Et voilà, il peut en faire 126 millions de milliards. Alors, typiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si l'intégralité de l'humanité comptait au rythme d'une opération par seconde, il faudrait 6 mois pour réaliser ce que le supercalculateur Jean Zay est capable de réaliser en une seule seconde. Donc ça, c'est en termes de puissance de calcul. On a exactement les mêmes problématiques en termes de, par exemple, de capacité mémoire. La capacité mémoire du supercalculateur Jean Zay, c'est 500 téraoctets. 500 téraoctets, ça représente, pour vous donner un équivalent, de l'ordre de 70 000 ordinateurs personnels de bureau ou de portable, comme celui que j'ai aujourd'hui. En termes de capacité de stockage, parce qu'il faut bien voir que les supercalculateurs, on parle toujours de la puissance de calcul, mais c'est pas le seul élément qui est important. Il faut qu'il y ait un équilibre entre la partie stockage, la partie mémoire, la partie calcul et l'interconnexion entre les différents nœuds de calcul. Donc, si on parle maintenant de la partie stockage, sur Jean Zay, on a 100 pétaflops. 100 pétaflops, ça représente plus ou moins 21 millions de DVD. Ces 21 millions de DVD, Jean Zay, il est capable de les lire à la vitesse de 1,5 téraoctets par seconde. 1,5 téraoctets par seconde, ça veut dire qu'en une seconde, il peut lire 320 DVD. Donc c'est pour vous donner des ordres de grandeur et essayer de quantifier un peu tout ça, parce que c'est vrai, quand on parle de 126 millions de milliards, on a du mal à s'imaginer ce à quoi ça peut correspondre.
Voilà, Jean Zay 4 doit donc être très cinéphile. À quoi ressemble cette nouvelle mue? Eh bien, restez à l'écoute, on va aller lui rendre visite.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, nous parlons de super ordinateurs avec Pierre-François Lavalle, François Lanus, Jean-Philippe Piquemal. On vient de parler de l'histoire de la super informatique et de la naissance des premiers supercalculateurs. On voit aussi comment, au tournant du XXIe siècle, il y a eu ces super ordinateurs de plus en plus gigantesques. Jean Zay aujourd'hui. Jean Zay, c'est le plus grand super ordinateur français. Hommage à celui qui a, sous le Front populaire, créé le CNRS. Il est sur le plateau de Saclay, en Essonne, au sein de l'IDRIS. Il a été inauguré en 2019 et dès 2019, Jean-Philippe Piquemal, il a donc été mis au service de la lutte contre le Covid et vous étiez en première loge.
Exactement. Donc, si vous vous rappelez bien, on n'était pas très fiers tous ensemble. On s'est mis à chercher des médicaments. Et donc, à ce moment-là, la France a mobilisé ses ressources de calcul. Et pour ce qu'on disait tout à l'heure, la chimie est maintenant digitale. Et donc, on a mis tout le supercalculateur à la recherche de médicaments qui étaient des contre-mesures pour le virus. Donc, pas un vaccin, mais plutôt des antiviraux. Et alors, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, ça n'avait jamais été fait, dans des temps aussi réduits. Et on s'est rendu compte qu'en littéralement 3 mois, on a trouvé des médicaments. Voilà. Donc, le supercalculateur n'allait pas faire la synthèse à la paillasse avec les chimistes, mais a réussi à prédire le médicament. Et donc, en 5 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Et le supercomputing, les super ordinateurs sont maintenant partout en pharma. Hein. Donc, un bienfait du Covid, s'il y en a un, c'est en fait d'avoir permis une transition à la pharmacie.
Oui, d'avoir été aussi une preuve, une preuve de concept que ces applications sont très concrètes et très utiles pour le plus grand nombre. À l'époque, il était composé de 48 baies, il rassemblait donc près de 1300 cartes graphiques, une puissance de calcul de 16 pétaflops. Aujourd'hui, il a donc cette quatrième extension, François Lanus, cette quatrième extension. Comment ça dope, entre guillemets, une machine comme celle-ci?
Alors, cette quatrième extension, elle est construite avec les accélérateurs les plus modernes, en tout cas à l'époque où elle est arrivée. Et ça a permis d'augmenter de manière massive la capacité de la machine et de débloquer des applications qui, jusqu'à présent, étaient limitées sur les versions précédentes. Donc, par exemple, mon domaine d'expertise, c'est sur l'entraînement de réseaux de neurones à très grande échelle, qui ont besoin de GPU très rapides, mais aussi qui sont interconnectés de façon très efficace pour pouvoir distribuer le calcul et le rendre en fait faisable dans un temps raisonnable. Et ça devient de plus en plus critique pour développer des modèles de plus en plus grands et de plus en plus ambitieux. Et c'est uniquement grâce à une machine de la qualité de Jean Z4 que ces applications deviennent gérables.
En effet, la puissance de Jean Z4, Pierre-François Lavallée, c'est qu'on a une mise en parallèle de 500 GPU, c'est ça?
Alors, beaucoup plus que 500 GPU.
Merci.
Je vais vous dire exactement. Donc, on a 1356 GPU H100. C'est une puissance de concrète de 100 pétaflops. C'est vraiment un saut quantitatif en termes de performance et en termes de fonctionnalité aussi, parce que ces nouveaux GPU arrivent avec des technologies qui, en particulier pour tout ce qui est entraînement de deep learning, de grands réseaux de neurones, permettent de travailler avec des formats de nombres qui sont réduits et qui sont particulièrement bien adaptés à tous les très grands entraînements, les pré-entraînements, etc. Et ça, c'est des fonctionnalités qui n'existaient pas dans les générations précédentes. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, le supercalculateur a eu 4 extensions. Et sur ces 4 extensions, pourquoi est-ce qu'il a eu autant d'extensions alors que les autres machines, les gros supercalculateurs des centres, normalement, ont éventuellement une extension à mi-vie? Là, on en a eu 4. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de demandes et parce que l'évolution technologique fait qu'aujourd'hui, dans tous les domaines scientifiques, ou quasiment dans tous les domaines scientifiques, on va avoir recours à l'IA et que l'IA évolue très vite et a besoin de ces nouvelles fonctionnalités qui sont intrinsèquement intégrées directement dans le hardware du matériel et qu'il est nécessaire pour garder la compétitivité vis-à-vis de tous les pays ou de la compétitivité internationale d'avoir accès à ces nouvelles technologies.
Alors on viendra plutôt en deuxième partie d'émission sur justement ce raz-de-marée de l'IA face au supercalculateur, mais question peut-être un peu candide, Pierre-François Lavallée, Jean Z est passé de 16 à 126 pétaflops, est-ce qu'avec de nouvelles extensions on pourrait passer à une machine hexafloppique comme on l'a décrit tout à l'heure?
Alors technologiquement, oui, ça pose pas de problème, il faut avoir le budget, il faut avoir l'électricité, il faut avoir la place, il faut avoir la puissance pour refroidir la machine. Donc aujourd'hui à l'IDRIS, on est un petit peu limité parce que c'est un centre qui a quand même 50 ans et on est au maximum de nos capacités aussi bien électriques que de refroidissement. Alors on a des travaux qui sont en cours au niveau des infrastructures techniques qui seront terminés d'ici mi-2026 et qui vont nous permettre d'accueillir effectivement un successeur à Jean Z. Alors peut-être que ce sera une cinquième extension, peut-être que ce sera une nouvelle machine, je dirais peu importe, c'est pas très important. Et normalement, avec les capacités qu'on aura d'ici un an, on devrait pouvoir accueillir des machines de type hexafloppique, effectivement.
En tout cas, on va se pencher dans le détail sur cette quatrième extension. On part tout de suite rendre visite à la machine avec le reportage du jour. Le supercalculateur Jean Z est donc hébergé au sein de l'Institut du développement et des ressources en informatique scientifique du CNRS sur le campus d'Orsay. Et on va faire la visite avec vous, Céline Lausanne, bonjour.
Bonjour Natacha.
Vous avez eu la chance de pouvoir le visiter dans toutes ses composantes et surtout sa dernière extension.
Oui, alors avant ça, il faut s'imaginer Jean Z dans une salle immense, hein, plus de 1000 mètres carrés où la machine turbine vraiment sans arrêt. Et rien que l'ambiance sonore souligne sa puissance, on frise parfois les 100 dB, hein, 126 pétaflops, ça génère forcément du bruit, raison pour laquelle on s'est équipé de casques, une puissance qui dégage aussi beaucoup de chaleur, qui est savamment réexploitée pour chauffer le bâti du campus. Et c'est Raphaël Medeiros, ingénieur système et responsable des infrastructures, qui nous amène à explorer cette machine et sa quatrième extension, donc, qui profite à des milliers de projets de recherche.
Donc, comme c'est relativement bruyant et que j'ai des acouphènes, je vais mettre ce casque-là, mais je vous entendrai quand même. Hein.
Ah oui, l'environnement va monter, le bruit va monter jusqu'à 100 dB, alors il faut s'équiper de casques.
C'est dans certains endroits. Donc, je vais vous donner un casque. Donc, la salle d'ordinateur de l'IDRIS fait 1000 mètres carrés. Elle est séparée par une cloison vitrée. De ce côté-ci, nous sommes dans la partie affectée essentiellement à l'hébergement. Et de l'autre côté, la partie qui fait 600 mètres carrés est affectée au supercalculateur Jean Zay.
Alors, Jean Zay a une capacité de 126 pétaflops.
Oui.
Qu'est-ce que ça signifie exactement en termes de capacité d'opération de calcul en virgule flottante?
C'est 1 suivi de 15 zéros, donc c'est 1 puissance péta. 15, c'est péta, opération en virgule flottante par seconde, et en double précision, donc en 64 bits. Cette puissance de calcul permet aux équipes de recherche, notamment les équipes de recherche en intelligence artificielle, de mener à bien leur recherche, l'entraînement de modèles, essentiellement.
Le flop, ça caractérise la rapidité de calcul et donc une partie de la performance de la machine.
Donc le flop permet, oui, les pétaflops ou mégaflops, pétaflops, permettent de qualifier les performances de calcul d'un supercalculateur.
Alors on va s'équiper de casques.
Et voilà, vous allez prendre ceci.
Alors je vais prendre le récepteur et le casque. Test micro.
Est-ce que vous m'entendez?
Très bien.
Voilà. Nous sommes ici à l'entrée de la salle de machine. Sous nos pieds, il y a un plenum ou un faux plancher de 1,60 m. Sont rangés sous nos pieds des réseaux hydrauliques, des réseaux électriques et des réseaux informatiques.
C'est des tuyaux notamment de refroidissement,
Réseaux hydrauliques où circule de l'eau qui va ensuite alimenter les systèmes de refroidissement direct du supercalculateur Jean Zay et puis aussi alimenter les armoires de climatisation.
C'est ça le liquid cooling?
Voilà, donc ça permet d'alimenter le système direct liquid cooling VLC de Jean Zay. Donc la température de fonctionnement du réseau de refroidissement de Jean Zay est de 30 à l'entrée et de 36 à la sortie. Donc Jean Zay, c'est à peu près 90 armoires et c'est à peu près 100 tonnes.
Est-ce qu'on pourrait se rapprocher des armoires, voir les racks avec les GPU, les CPU?
Voilà, donc ici, face à nous, on a dans ces lames-là l'équivalent des cartes mères des PC dans lesquelles sont installées des CPU et des GPU, plus de la mémoire.
Donc là, on contourne les rangées d'armoires pour s'approcher d'une lame.
Ici, nous avons une robotique où sont rangées des cassettes de stockage. Ce sont des cassettes magnétiques. Et c'est un stockage qu'on appelle stockage froid et qu'on trouve aussi chez certains hébergeurs, comme Amazon ou d'autres. Donc, les données qui sont le moins souvent utilisées sont stockées ici et rappelées vers la mémoire du supercalculateur lorsque les équipes de recherche en ont besoin. Et ces opérations se font de façon automatique.
Ah ouais, là, il fait très, très chaud, là. Donc
ici, vous avez la quatrième extension de Jean Zay. C'est une machine fabriquée par Eviden, anciennement Atos, qui est composée de racks Sequana. Et chacun des racks peut peser 2600 kg et consommer 120 kW. Ici, vous avez une vue de réseau hydraulique, électrique et informatique qui sont rangés dans le plenum.
Combien de personnes ou d'équipes de recherche utilisent actuellement les ressources du supercalculateur ?
Aujourd'hui, M. Pierre-François Lavallée le confirmera, nous avons environ 4000 utilisateurs.
Donc là, on va où ?
On va voir les tuyaux en bas.
Là, on va au sous-sol voir les dessous de la machine.
Donc ici, nous sommes dans la sous-station. C'est un petit peu l'envers du décor où sont installées des pompes, des équipements électriques, des réservoirs d'eau glacée, donc nous en avons 6, qui permettent au fonctionnement des équipements de refroidissement de continuer de refroidir le supercalculateur en cas d'arrêt des équipements et qui permettent à l'extérieur d'échanger les calories avec l'atmosphère ou avec le réseau Paris-Saclay. Donc ici, nous sommes dans un local batterie. Nous avons plusieurs centaines de batteries au plomb qui permettent à la salle d'ordinateur Jean Z de continuer de fonctionner en cas d'arrêt de la fourniture d'énergie depuis le réseau Enetix. Il s'agit de batteries au plomb fermées, à peu près identiques à celles que l'on peut trouver dans les voitures de tourisme, avec quand même quelques particularités. D'une part, la capacité unitaire, et puis ensuite, leur possibilité de faire des décharges extrêmement rapides. Donc ici, nous sommes dans une des deux salles d'onduleurs, d'une capacité de 1600 kW utiles. Actuellement, cet ensemble d'équipements permettent d'alimenter en grande partie le supercalculateur Jean Z, et aussi les autres configurations informatiques qui se trouvent en salle machine.
Merci Céline Ozanne de nous avoir présenté les dessous de la machine. Notre collection La Science au Labo, c'est à podcaster sur l'application Radio France. Pierre-François Lavallée, on entendait dans ce reportage voilà, que 4000 personnes travaillent simultanément sur une machine. Alors, comment ça se passe en effet pour du côté des chercheurs? On fait des appels à projets qui sont ensuite évalués par un comité scientifique, un peu comme quand on fait appel à un grand télescope pour observer une partie du ciel?
Oui, tout à fait. Donc, un supercalculateur comme Jean Z est considéré comme une grande infrastructure de recherche. Et donc, l'accès à ce supercalculateur se fait via des appels à projets réguliers sur lequel les chercheurs vont soumettre un projet qui va être évalué par leur pair. Et seuls les meilleurs projets vont avoir accès au supercalculateur avec une allocation qui va être valable pendant un an. Il faut savoir qu'on a beaucoup plus de demandes que de ressources disponibles. Hein. On a à peu près entre 3 et 4 fois plus d'heures qui sont demandées que ce que est capable de fournir le supercalculateur Jean Z.
Donc, c'est nouveau, voilà. Ça
Pardon?
C'est nouveau?
Alors, c'est nouveau, c'est depuis 2019. Depuis l'arrivée de Jean Z, on a des taux de pression qui sont importants. Au début, on avait 1x2. Là, maintenant, on atteint 1x3, 1x4. Et pourtant, la puissance du supercalculateur a été quasiment multiplié par 10. Donc, faut prendre aussi ça en compte. Donc, en fait, il y a vraiment une vraie tsunami qui arrive. Et peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. Hein, mais la principale raison de cette explosion des demandes, c'est l'arrivée d'une nouvelle communauté. C'est la communauté de l'intelligence artificielle.
Bah, en effet, on a deux grandes familles d'usagers au sein des superordinateurs. Ce qu'on appelle le HPC, le High Performance Computing, aussi appelé simulation numérique, et l'IA. François Lénus, alors en quoi consistent ces deux grandes familles d'usage, enfin, leurs particularités à chacune d'entre elles?
Je suis tout à fait à même de répondre à cette question, parce que mon domaine de recherche, c'est la cosmologie observationnelle. Donc on essaye de comprendre les plus grandes structures de l'univers à partir de relevés de galaxies que l'on fait du ciel. Et dans ce domaine, un outil absolument fondamental pour essayer de nous aider à comprendre cet univers, c'est la simulation numérique. Donc on a besoin d'énormes calculateurs qui vont nous permettre de simuler des volumes gigantesques d'univers et de comprendre comment la formation des structures que l'on peut voir à grande échelle et la formation des galaxies dépend de paramètres fondamentaux de l'univers. Donc dans ma science principale, ce que l'on fait, c'est qu'on va générer un grand nombre de simulations, on va changer les paramètres de la simulation et on va essayer de trouver les paramètres paramètres qui font que l'univers simulé est le plus similaire possible à celui que l'on observe. Ça, c'est l'aspect HPC. Et ensuite, l'aspect IA, c'est que dans cette démarche d'essayer de comprendre l'univers, on a besoin de rassembler de plus en plus de données. Donc, on a des gros instruments, comme le satellite Euclide, qui a été lancé il y a quelques années, plein d'autres observatoires qui nous donnent un déluge de données qui est de plus en plus complexe et de plus en plus importante. Et on a besoin de nouveaux outils pour nous aider à comprendre ces données. Et c'est là que l'IA intervient, parce qu'elle est capable d'extraire de l'information, de données très complexes, et d'accélérer grandement l'analyse de ces données.
Je lisais, en préparant cette émission, Jean-Philippe Picmal, que justement, pour tout ce qui est HPC, ça nécessite surtout un focus très particulier sur les CPU, tandis que pour l'IA, on va faire plutôt se contenter des GPU.
Alors, ça a commencé comme ça, c'est en train d'évoluer, alors je vais vous en parler aussi. Donc, les CPU, ils sont surtout utilisés en simulation numérique du fait de leur précision. Ils sont très précis, ce qu'on appelle la précision double, la double précision. Alors que les GPU, en tout cas initialement, ils étaient plutôt orientés vers une précision simple, c'est-à-dire un peu moins de précision sur les nombres, mais c'est pas du tout un problème en IA. Donc c'est ça qui s'est passé. Et donc beaucoup de machines se sont développées avec énormément de GPU pour pouvoir gérer les flots de données de l'intelligence artificielle. Alors c'est un peu évolué parce que du coup, cette manne de machines qui est apparue a intéressé les mathématiciens, les physiciens et les chimistes. Et on s'est mis à se dire, essayons de faire des mathématiques un petit peu différentes pour pouvoir utiliser les machines de l'IA pour faire de la physique. Et donc maintenant, on se retrouve en fait avec une frontière un peu plus floue entre les deux domaines, CPU et GPU, on peut tout utiliser.
Voilà, en plus, comme vous venez de nous dire, complètement possible de joindre ces deux approches également. Alors, derrière les flops, il faut aussi se pencher donc sur les usages précis pour vraiment comprendre les superordinateurs et leur puissance. Quels usages les chercheurs font-ils d'un Jean Zé 4 ? Restez avec nous. Mister Oiseau, calculatrix en direct sur France Culture, car nous parlons de super calculateurs en compagnie de nos trois invités du jour. Pierre-François Lavallée, ingénieur de recherche au CNRS, directeur de l'IDRIS. François Lanus, chercheur CNRS en astrophysique et cosmologie. Et Jean-Philippe Picmal, professeur à Sorbonne Université, directeur scientifique de la start-up Qubit Pharmaceuticals. On vient de voir comment, en quelques années, ces super calculateurs ont gagné en puissance. On vient de rentrer dans le détail de cette machine qui est le Jean Zé 4. Jean-Philippe Picmal, on a dit que vous étiez aux premières loges de la bataille contre le coronavirus. Avec vos équipes, vous avez fait de la biologie computationnelle. Alors comment justement fait-on de la biologie computationnelle avec de tels outils?
Alors il y a ce qu'on faisait en 2020 et ce qu'on fait maintenant. Donc ça a commencé en fait par l'idée simple de résoudre des équations de la physique pour pouvoir en fait faire des simulations numériques. Donc non pas comme on fait d'habitude. Donc on voit surtout, par exemple, en mécanique, on arrive à prédire les résistances qu'il faut pour créer un pont. Maintenant, on fait la même chose en chimie, c'est-à-dire qu'on ne va pas appliquer les lois de la mécanique classique, mais les lois de la mécanique quantique. Voilà. Donc, en 2020, on a fait ce qu'on appelle des approximations de l'équation de Schrödinger. Donc, l'équation de Schrödinger, elle est assez connue parce qu'il y a le chat et tout ça. Mais elle est presque insoluble, elle est trop compliquée. Donc même avec un supercalculateur, il faut faire des approximations. Donc qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'on crée ces implémentations d'une version simplifiée de cette équation. Et grâce à ça, on peut faire bouger les atomes. On peut mettre un médicament. On peut modéliser une protéine. Et c'est ce qu'on a fait en 2020. Voilà. Alors, ce qu'on fait actuellement, c'est que...
La fameuse protéine spike.
Exactement. La fameuse protéine spike. Donc, on a essayé de voir comment elle se comportait. Est-ce qu'elle avait des faiblesses ? Et donc, avec l'informatique, on peut aller voir atome par atome comment se comporte une protéine et essayer d'aller voir où localiser un médicament et quel type de médicament. Alors, ce qui se passe depuis, c'est que la puissance augmente, et que la physique que nous faisions au début, elle s'est couplée avec l'IA. Donc, il faut imaginer que nous allons essayer de faire encore mieux au niveau de l'équation Schrödinger sur des toutes petites molécules, un peu comme des Lego, et l'IA va réassembler les Lego pour faire la protéine spike. Et grâce à ça, on a des modèles, et dans ces modèles, on peut par exemple se dire, tiens, si aujourd'hui on testait 1000 médicaments à très grande vitesse. Donc plus on a de grosses machines, plus en temps réduit, on peut tester un grand nombre de médicaments, évidemment avec des vraies applications, puisque un médicament, ça va vers le patient.
Alors en effet, comme vous décrivez, vous avez dû modéliser jusqu'à plusieurs centaines de millions d'atomes. Dans votre cas, François Lanus, modéliser presque des centaines de millions d'étoiles, on pourrait dire, puisque vous avez développé des méthodes IA pour interpréter donc, des données en astrophysique. C'est votre modèle Aeon 1 fondé sur l'IA. Ça, c'est quelque chose qui permet justement de traiter des grands jeux de données qui permettent de faire de la cosmologie.
Exactement. Donc ça suit des développements de la méthodologie en apprentissage automatique en IA qui ont été très récents dans les dernières quelques années. On est passé de développer des modèles d'intelligence artificielle très précis qui répondent à une tâche bien déterminée vers des modèles généraux qu'on appelle les modèles de fondation qui sont entraînés sur des énormes volumes de données et qui ensuite sont très efficacement spécialisés pour des tâches particulières. Donc c'est ce que l'on a fait. On a récolté un énorme jeu de données en astrophysique. Ça contient des images de galaxies, ça contient des spectres optiques de quasars, d'étoiles. Et plein d'autres mesures, 120 teraoctets de données au total que l'on a utilisé pour créer ce modèle de fondation qui est capable d'assimiler toutes ces données et de comprendre comment les différentes observations sont reliées les unes avec les autres. Et ça aboutit à un modèle très général que l'on peut spécialiser pour plein de tâches particulières scientifiques.
Pierre-François Lavallée, en fait, finalement, le champ d'application, les usages des supercalculateurs sont presque aussi innombrables que les sujets dont on qu'on évoque.
Oui, c'est vrai que dans tous les domaines scientifiques, aujourd'hui, on a besoin de simulation, on a besoin de modélisation. Et c'est vrai que les domaines scientifiques sont très très nombreux. Hein. Je peux citer par exemple, alors un de nos plus gros utilisateurs historiques du supercalculateur, c'est toute la communauté environnement. Toutes les campagnes CEMIP ont été faites sur des supercalculateurs, pas nécessairement à l'IDRIS, et ils ont des énormes besoins de simulation. Et aujourd'hui, ce que présentaient les deux chercheurs qui sont présents ici aujourd'hui avec moi, c'est vraiment une évolution fondamentale de l'utilisation des supercalculateurs, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'intelligence artificielle pour faire de la science. Donc l'IA pour la science, et ça c'est vrai que c'est fondamental. Pourquoi ? Parce que ça permet de lever un certain nombre de verrous qui apparaissent dans les simulations numériques et qui sont parfois bloquants, parce que demandant trop de capacité de calcul, et on va remplacer les noyaux qui posent problème avec de l'IA, pour justement pouvoir passer à l'échelle et pouvoir résoudre notre problème. Donc ça, c'est une utilisation possible. Il y a plein d'autres utilisations possibles de l'IA. Là aussi, les domaines sont extrêmement nombreux. En médecine, on l'a vu. Tout ce qui concerne la conduite autonome, on a énormément de projets qui utilisent la conduite autonome en tant que, voilà, utiliser l'IA pour faire de la conduite autonome. Tout ce que François a présenté sur la détection de signaux faibles, etc., que ce soit dans le domaine de l'astrophysique ou dans d'autres domaines, la cybersécurité. Donc c'est extrêmement très très variable, et je dirais que tous les domaines scientifiques sont impactés par ces nouvelles évolutions.
C'est ça, Jean-François Lanus, selon vous, le danger en ce moment, c'est que les développements soient vraiment tournés vers l'IA au détriment de tous les autres ?
Je pense pas que ce soit un danger. Je pense que c'est plutôt une opportunité. Ça nous oblige, enfin, ça nous permet de réimaginer la façon dont on va aborder les problèmes. Et dans certains cas, ça nous permet d'aller beaucoup plus rapidement et d'être beaucoup plus précis. Et ça tombe justement à un moment où les technologies et les problèmes physiques qu'on essaye de résoudre sont de plus en plus complexes. Donc, je pense que c'est essentiellement une opportunité, une évolution des méthodes.
Jean-Philippe Piquemal, sur ce raz-de-marée de l'IA, justement.
Bah, c'est très très bon pour nos, pour mon domaine. Donc, c'est le domaine de la chimie, de la pharmacie. Clairement, on peut agréger un volume de données qu'on n'aurait jamais pu faire en calcul pur. Donc, l'IA vient en aide et on va vers des approches hybrides où l'IA et la physique se mélangent. Et à partir du moment où on arrive à avoir les bonnes données, donc il y a toujours cette histoire de données dans l'IA, on arrive à compléter des modèles physiques qui auraient demandé des centaines d'années de calcul. Et maintenant, on peut les faire en quelques heures. Donc, c'est assez bluffant et ça va permettre des vraies applications dans le monde économique.
Alors, après avoir parlé des performances des machines actuelles, quelles sont celles visées à l'avenir? Les supercalculateurs face à l'ordinateur quantique? Et alors, où est-ce une bonne chose? Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, nous parlons de super calculateurs, de super ordinateurs avec Pierre-François Lavallée, François Lanus et Jean-Philippe Piquemal. Il existe un classement, le classement Top 500, qui donne deux fois par an la liste des super calculateurs les plus puissants au monde. Alors le podium actuel est 100% américain, aucun projet français, mais il s'est au sein du Top 15. Il faut quand même dire, avant de rentrer dans le détail, Pierre-François Lavallée, qu'il faut se méfier de ce classement.
Oui, donc c'est un classement qui est, comme tout classement, est lié à un test qui s'appelle le LINPACK, qui est un test de résolution de systèmes linéaires, qui a ses avantages et ses inconvénients. Donc voilà, c'est pas une vraie application, c'est une application très spécifique et qui en fait montre la puissance, montre la puissance crête de la machine, la puissance maximale qu'on peut tirer dans les meilleures conditions. Donc c'est important d'avoir ça parce que le Top 500, ça permet d'avoir un historique sur 25 ans des évolutions, des performances des machines les plus puissantes au monde. Alors, plusieurs réflexions par rapport à ça. Attention, tout le monde ne souhaite pas participer au Top 500. On sait depuis plusieurs années que, par exemple, la Chine a plusieurs machines qui seraient dans les premières places du Top 500, mais qui n'apparaissent pas. On le sait comment, grâce aux articles scientifiques qui ont été publiés, qui ne peuvent pas être publiés s'ils n'avaient pas eu cette puissance de supérieure à un exaflop, et pourtant, il n'y a aucune machine chinoise qui apparaît clairement dans ce classement. Le deuxième point, c'est que faut faire attention, comme tout classement, on n'a pas nécessairement les mêmes résultats sur ses propres applications. C'est-à-dire qu'une vraie application va être beaucoup plus complexe qu'une simple résolution d'un système linéaire. Et donc, à partir de là, là où on peut tirer jusqu'à 80% de la puissance crête de la machine sur le Top 500, sur une vraie application, parfois, on va descendre à 10, à 5% même de la puissance crête. Pourquoi? Parce qu'on fait des choses beaucoup plus complexes, on utilise beaucoup plus le réseau d'interconnexion entre les nœuds, etc. Et donc, finalement, ce qui nous importe, nous, lorsqu'on achète un super calculateur en tant que centre national, c'est que cette machine s'adapte au mieux aux simulations ou aux utilisations qui vont être amenées à être faites par les chercheurs. Donc c'est pour ça que le Top 500, c'est un critère important dans le choix de la machine, mais c'est loin d'être le seul. Et je dirais qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'autres benchmarks, donc des tests qu'on va faire passer sur la machine pour essayer de quantifier la vraie valeur de la machine par rapport au workload, donc à l'exploitation qu'on va en faire dans les années qui vont suivre son installation.
François Lanus, en effet, sur ce Top 500, sur le fait que ce sont des benchmarks qui s'appuient sur des performances qui ne sont pas si révélatrices que ça, que des usages d'un supercalculateur.
Oui, exactement. Donc, comme on a entendu, il y a la gamme d'utilisateurs de ces machines est extrêmement grande. Et la gamme d'utilisation est aussi variée. Donc, une tâche de simulation ne va pas du tout utiliser la même machine, la machine de la même façon qu'une tâche d'entraînement de machine learning. l'accès aux données va être différent, la quantité de données à transférer entre les nœuds va être différent. Et donc, c'est important, comme on vient de le dire, d'avoir une série de tests qui représentent des usages réels et variés pour vraiment évaluer la performance pratique d'une machine qui, pour une communauté.
Et puis par ailleurs, il existe, comme vous dites, un autre classement, c'est le Green 500, à côté de ce classement Top 500. Le Green 500, lui, qui est, Jean-Philippe Picmal, le classement des plus éco-efficaces par watt. Parce que c'est également aussi un des enjeux que posent ces supercalculateurs, c'est les enjeux énergétiques.
Ah, totalement, parce que donc, dans un supercalculateur, il y a le prix à l'achat, mais il y a la gestion du supercalculateur et l'énergie qu'il va utiliser. Donc, il devient de plus en plus important de voir quelle est l'enveloppe énergétique associée à la mise en production d'une machine. Et donc, il y a un classement différent parce que les premières machines du Top 500 ne sont pas forcément les plus vertes. Et franchement, c'est un des aspects qui a été vraiment regardé par l'IDRIS. Et donc, combien peut-on avoir de pétaflops pour un certain nombre de mégawatts devient, on l'entend beaucoup en IA en ce moment parce qu'on crée des data centers partout. Et si on se met à créer des data centers partout, il va entrer en compétition avec l'électricité civile. Donc, voilà, l'énergie, c'est vraiment très important. Je dirais même que c'est une des clés pour le futur du supercomputing. On ne va pas pouvoir avoir à construire un réacteur nucléaire à côté de chaque superordinateur.
C'est ça, c'est que là, à l'heure actuelle, si on veut tirer encore plus loin les puissances de calcul de ces machines, on est confronté quand même à des contraintes qui sont des contraintes énergétiques, Pierre-François Lavallée.
Oui, c'est la contrainte principale hein, aujourd'hui qui nous pose problème dans les centres nationaux et pour pouvoir accéder à des puissances hexaflopiques, c'est cette consommation énergétique. Donc aujourd'hui, les machines les plus puissantes hein, dans le top 500, elles consomment 20-30 mégawatts. C'est énorme. Hein. Nous, à l'IDRIS, avec Jean Zay, on est à 2,5 mégawatts en mode LeanPack. Donc quand on fait passer vraiment les codes les plus intensifs sur la machine, donc on voit qu'il y a déjà une différence. Et ce que tu disais, Jean-Philippe, c'est que là, on va parler de construction de nouveaux data centres gigafactory qui vont consommer 1 gigawatt ou plusieurs gigawatts. Plusieurs gigawatts, c'est quasiment une partie d'une centrale nucléaire qu'il faut mettre à côté du centre rien que pour l'alimenter. Donc là, c'est des vraies problématiques et on se rend compte que voilà, si on peut faire en sorte d'avoir du matériel qui soit plus efficace, des codes qui soient plus performants, eh bien on pourrait faire baisser cette consommation électrique ou au moins la limiter.
François Lanus, en effet, le goulot d'étranglement actuel le plus important, c'est l'énergie.
Oui, et la raison pour laquelle ça devient un problème important, c'est cette course vers l'avant de l'IA, autant pour l'entraînement des réseaux que pour permettre de distribuer l'IA aux utilisateurs pour les applications commerciales. Et ça à l'heure actuelle, attire énormément de financement et c'est la course vers les plus grosses machines possibles pour pouvoir imaginer atteindre un monde où on peut avoir des modèles d'IA extrêmement performants qui puissent être servis à toute la population.
Voilà, on voit bien donc cette contrainte énergétique qui limite le progrès, puis cette contrainte thermique également, parce que pour continuer à être de plus en plus super puissant, il faut aussi penser au super refroidissement. Jean-Philippe Picmal, parce que les ventilateurs de nos ordinateurs personnels, on a vu, ça ne suffit pas. Comment on se confronte justement à ces questions-là de système de refroidissement et comment dépasser ces problèmes?
Donc on est plus du tout dans le cadre du ventilateur. On est dans des refroidissements liquides, à eau froide, même à eau chaude maintenant. Et il faut imaginer que construire un superordinateur, c'est évidemment les grandes armoires avec les processeurs, les GPU. Mais il y a tout ce qu'il y a autour. Donc il y a plein de tuyaux où l'eau va passer, capter la chaleur produite par le supercalculateur et la redistribuer. Donc par exemple à l'IDRIS, il y a une redistribution au sein du quartier, au sein de l'université. Donc, il faut gérer ça. Donc, c'est très important de penser au refroidissement. Donc, ça a été présent dès le début. Donc, on parlait tout à l'heure dans l'historique des supercalculateurs Cray. C'était une de leurs clés. Ils avaient commencé à inventer un refroidissement liquide avec des liquides un peu étranges à l'époque. Et c'est toujours un domaine de recherche. Plus on va grossir, plus il va falloir refroidir. Voilà. Donc, c'est toujours assez intéressant quand on entend qu'il y a des data centers dans le désert. Vraiment, il y a vraiment un enjeu de où localiser les supercalculateurs et vraiment comment les refroidir.
Puisque ce développement que vous évoquez, le refroidissement par immersion, ça c'est quelque chose d'encore exploratoire, Pierre-François Lavallée.
Alors, c'est des choses qui existaient, effectivement, il y a très longtemps chez Cray, par immersion, effectivement. Aujourd'hui, on a quelques machines qui fonctionnent avec ce dispositif de refroidissement, mais c'est encore exploratoire. Pourquoi ? Parce que ça a quand même un certain nombre de contraintes au niveau du changement de carte, etc., au niveau des contraintes pour avoir ce liquide qui permet de récupérer la chaleur directement au contact de tous les éléments de la carte. Il faut savoir que les performances du DLC, donc du Direct Liquid Cooling, sont déjà excellentes. On arrive à récupérer pratiquement 95% de la chaleur générée par le supercalculateur, que ce soit le CPU, le GPU, la mémoire, les cartes réseau, l'alimentation, etc. Donc, on arrive déjà à faire des choses extrêmement performantes. Voilà, le refroidissement, c'est une vraie question. Il y a beaucoup de recherches. Mais pour l'instant, je pense qu'on arrive un petit peu au bout du chemin. On a fait le refroidissement air, on a fait le refroidissement par eau froide, on fait le refroidissement par eau chaude. À chaque fois, on améliore l'efficacité. On est obligé de moins réinjecter d'énergie pour refroidir la machine. Juste une information. Aujourd'hui, par exemple, fonctionne le supercalculateur Jean Zay. On consomme à peu près 2000 kilowatts. En mode normal, et on récupère 1600 kW par la récupération de chaleur. Donc vous voyez, on récupère 80% de l'électricité qu'on injecte dans le calculateur pour faire les calculs. Donc c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Est-ce qu'on peut faire mieux ? Sûrement, mais il faudra avoir accès à de nouvelles technologies.
En effet, on atteint le maximum de ce qu'on peut faire en termes de refroidissement. Une des voies pour continuer de rendre ces superordinateurs plus puissants, c'est d'optimiser encore plus leurs composants pour certaines tâches. Donc en fait, c'est de revenir à de la spécialisation. Mais par rapport au quantique, François Lanus, comment justement est-ce que l'ordinateur quantique, cet horizon quantique, peut-il être une rupture technologique à venir ?
Alors ça, c'est ce que l'on espère tous depuis beaucoup d'années. Visiblement, on s'en rapproche un petit peu. Donc, qu'est-ce que c'est que l'informatique quantique ? C'est un changement d'approche pour le calcul. Au lieu d'utiliser des bits 0 ou 1, on va vers des bits quantiques qui permettent d'aborder des problèmes qui sont classiquement insolubles en temps raisonnable. Et ça permet de changer, enfin, d'aborder des problèmes très coûteux et de changer l'approche de l'informatique. Le problème, c'est que générer un nombre suffisant d'éléments de calcul quantique est très coûteux, très difficile à faire. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas été mis à l'échelle d'un supercalculateur, mais on va vers une intégration de ces éléments vers les machines futures.
C'est-à-dire que les ordinateurs quantiques pourraient s'intégrer dans les systèmes actuels en tant qu'accélérateur, comme une sorte de troisième feuillet de fonctionnement.
Oui, en tant qu'accélérateur, alors pour un spectre d'applications relativement limité. Jean-Philippe, je pense que t'es plus spécialiste du domaine, tu pourras plus nous en dire. Mais faut pas croire que l'ordinateur quantique va pouvoir tout résoudre.
Jean-Philippe Piquemal, en quelques mots.
Donc, pour des applications qui s'approchent de la physique quantique, c'est parfait. Donc, pourquoi ? Parce que c'est le même langage. Donc, on s'attend à avoir de très, très grosses accélérations tout en ayant un gain énergétique, parce que les ordinateurs quantiques, a priori, vont consommer beaucoup, beaucoup moins d'énergie. Et aussi, par exemple, dans des approches qui sont d'intérêt pour tout ce qui est la modélisation bancaire, tout ce qu'on appelle les méthodes Monte Carlo, tout ce qui est stochastique.
Bien, en tout cas, merci. Dans quelques secondes, on retrouve la chronique d'Alexandra Delbault. Mais grand merci à vous trois de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Tout de suite, on reste dans le monde de la tech avec un micro-robot qui délivre un médicament dans le cerveau d'un animal. C'est la chronique avec Science.
Peut-on transporter des médicaments grâce à des tout petits robots ? L'idée d'utiliser des micro-robots médicaux ne date pas d'hier. Dès la fin des années 50, le physicien et prix Nobel Richard Feynman évoque, dans une conférence devenue célèbre à Caltech, la possibilité d'avaler un médecin miniature, une machine capable de circuler dans le corps humain pour délivrer des traitements ciblés. Et à l'époque, c'était encore largement de la science-fiction. Quentin Beuler est chercheur en robotique médicale à l'École Polytechnique Fédérale de Zurich.
Et donc à l'époque, ça relevait évidemment de la science-fiction, puisque les technologies qui permettraient de concevoir, de fabriquer, de manipuler ces machines n'existaient pas, mais l'idée même était déjà évoqué. Et puis après, ben, la deuxième moitié du XXe siècle, on a vu cette idée entretenue plus par de la science-fiction, hein, telle que avec des films comme le Voyage fantastique, dans lequel on a une équipe d'experts qui est miniaturisée, injectée dans le corps humain. Mais vraiment la recherche, donc le moment où c'est les technologies pour rendre ça possible a vraiment pris pied, c'est vraiment les 20 dernières années. Il y a eu des gros progrès en microfabrication, en sciences des matériaux, en robotique. Et c'est vraiment ces résultats récents qui ont permis de rendre ça possible. Qu'ils ont différentes propriétés à respecter. Donc d'une part, ils doivent être biocompatibles. Donc ils doivent être composés de matériaux qui sont approuvés par des instituts de protection de la santé afin de s'assurer de leur sûreté dans le corps humain. Elles sont aussi chargées d'une substance thérapeutique. Et évidemment, ces micro-robots, comme leur nom l'indique, doivent être petits. Dans tous les cas, moins de 2 mm et aussi petits possible. Et qui nécessitent donc de maîtriser aussi les processus chimiques qui régissent comment les différents matériaux qui sont mis ensemble dans ce micro-robot peuvent être fabriqués.
Et ensuite, tout l'enjeu, c'est de réussir à déplacer ces robots dans un organisme, de façon robuste, dans des vaisseaux de taille très différente et surtout sans danger pour le patient. Et là, plusieurs stratégies sont possibles. On peut utiliser un moteur chimique, c'est une réaction entre le robot et son environnement qui propulse l'objet dans l'organisme. Il y a aussi l'option micro-nageur, des micro-robots inspirés de poissons qui nagent littéralement dans la circulation sanguine. Mais en l'occurrence, dans cette nouvelle étude parue dans Science, les scientifiques ont tenté de faire déplacer un robot de la taille d'un grain de sable grâce à un champ magnétique. La capsule est principalement composée de gélatine. À l'intérieur, on place le médicament, ici un antithrombotique destiné à dissoudre des caillots sanguins, mais ce n'est pas le seul ingrédient. Elle contient aussi du tantal, un élément chimique qui est visible au rayon X et qui permet de suivre le robot par imagerie médicale, et pour finir, des particules de fer, et c'est ce qui permet notamment de le déplacer. À l'extérieur du corps, une machine génère des champs magnétiques, on ajoute juste ces champs pour guider la capsule à chaque embranchement des vaisseaux sanguins, pour lui dire d'aller à droite ou à gauche à chaque bifurcation, comme une sorte de GPS. Et résultat, ce micro-robot est capable d'aller transporter à sa cible le médicament dans des modèles en silicone et puis également dans le cerveau d'animaux.
Cette capsule, donc, elle est composée d'un gel et ce gel se dissout lorsqu'il atteint une certaine température. À la température du sang humain, qui est autour de 37 degrés, cette capsule elle va rester solide. On génère des champs magnétiques qui changent de manière très rapide et qui vont venir échauffer les nanoparticules de fer et qui vont venir permettre de la rendre plus chaude et ainsi de la dissoudre dans le sang. C'est de la même manière que quand vous cuisinez, finalement, vous faites fondre de la gélatine, c'est exactement le même mécanisme. On peut naviguer dans différents types de vaisseaux sanguins, des vaisseaux sanguins qui ont différentes tailles, dans lesquels le débit sanguin est très différent. Et donc, on a montré que cette approche est faisable sur des modèles en silicone. Et effectivement, après plusieurs années, une fois qu'on a été assez confiant que cette méthode pouvait marcher sur un vrai organisme, on a collaboré avec une équipe vétérinaire de l'hôpital de Zurich et démontré la faisabilité de cette approche sur des modèles animaux. Donc, on a typiquement navigué dans un système neurovasculaire d'un cochon et d'un mouton et dans des différentes régions de leur cerveau.
Le système vasculaire des cochons et des moutons est assez similaire à celui de l'humain. C'est donc une preuve de concept réaliste. Il existait déjà des robots magnétiques capables de se déplacer dans un organisme vivant, mais celui-ci est le premier à combiner navigation magnétique, délivrance ciblée et tests in vivo sur un gros animal. C'est pour cela que ses auteurs et autrices le qualifient de cliniquement prêt, mais on est encore loin d'une application directe sur des vrais patients. Et c'est finalement l'un des défis majeurs de ces technologies, passer de la recherche fondamentale au stade clinique. Et là, c'est davantage une question de développement industriel, de réglementation et de financement qu'une question purement scientifique. De ce côté-là, en attendant, la suite pour ces chercheurs et chercheuses, c'est de délivrer cette fois des anticancéreux très toxiques. Trop toxiques pour être injectés directement dans la circulation sanguine, mais grâce au micro-robot, l'idée est d'aller le déposer directement sur la tumeur, sans exposer tout l'organisme, et donc en limitant au maximum les effets secondaires.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Ève Etienne, Noémie Maguet de Saint-Vulfran, Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Alexandre Morales, Joseph Schlegel. À la réalisation, c'était Olivier Bétard. À la technique, Grégory Wallon. Et c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.